Il y a quelque 200 ans, entre 1816 et 1820, naissaient les enfants Brontë. Leur mère mourut prématurément en 1821, ainsi que deux petites filles. Le révérend Brontë éleva seul les quatre enfants qui lui restaient, sans jamais trouver à se remarier. Et c'est dans le presbytère d'Haworth, dans le Yorkshire, sur la lande battue par les vents, que les âmes romanesques et solitaires de Charlotte, Branwell, Émilie et Anne s'échauffèrent. Dans les lettres qui vont suivre, une voix prédomine, celle de Charlotte, qui, de toute la fratrie, a joui de la plus longue existence. Et c'est notamment grâce à sa correspondance avec Hélène Nossy, amie qu'elle rencontra à 15 ans au pensionnat de Miss Wooler, que l'on devine ce que fut intimement la vie de cette famille frappée par une destinée singulière. En 1835, Charlotte a 19 ans, Branwell 18, Émilie 17 et Anne 15. Mardi 16 mai. De A à J, ils vont tous vers le nord. De K à Z, vers le sud. Ou le contraire. Il y en a de tendres, Lily, Emma, Papy. De carrément farouches, Knut. Un temps, il y a eu Prut. Et puis un beau jour, Prut a disparu, volatilisé. Entre Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois, Gus ne s'arrête pas aux stations où s'arrête Épice, sauf au Bourget, et vice-versa naturellement. Ou le contraire, je ne sais plus. Des trains qui jouent à saute-mouton.
La rame entre en gare.
J'ai toujours trouvé important de me familiariser avec le visage de la personne avant de la rencontrer pour la première fois, histoire de ne pas être surpris. Elle était très belle sur ce vieux cliché. Les cheveux attachés, le front haut, elle me souriait au milieu d'un groupe d'intellectuels dont la notoriété n'était plus à faire. Au téléphone, elle m'avait dit qu'elle habitait au troisième étage. L'immeuble était mal entretenu. Sur les murs, l'enduit s'écaillait et les fenêtres étroites de la cage d'escalier étaient opacifiées par la saleté, comme dans un couvent abandonné.
Je suis au téléphone. Entrez.
Elle avait les pieds nus. Ses cheveux étaient attachés, comme sur la photo. L'appartement était inondé de lumière. Une grande fenêtre donnait sur la cime d'un ficus qui dominait une petite cour intérieure.
Oui, je dois raccrocher maintenant. Okay.
Dans le salon se trouvaient deux canapés style années 70, une télévision, quelques œuvres d'art accrochées au mur mais que je n'ai pas eu le temps de voir de près.
Venez par ici, on va s'asseoir dans la cuisine. Pourquoi venez-vous me voir ?
On m'a dit que vous étiez la personne la mieux placée pour m'aider. Je veux apprendre à écrire.
C'est vraiment quelque chose d'important pour vous ? Vous êtes prêt à y consacrer du temps ?
Oui, c'est pour ça que je suis venu vous voir.
Certains attendent de moi que je fasse le travail pour eux. Or, ce n'est pas dans mes habitudes et je n'écrirai pas à votre place, vous savez.
Bien sûr. Elle avait des mains longues et hâlées, avec plusieurs bagues aux doigts. Et ses yeux étaient si profonds que j'avais du mal à les regarder sans en être troublé. D'après mes renseignements, elle avait 7 ans de plus que moi, ce qui signifiait que lorsqu'elle s'était engagée dans l'armée, j'entrais en CM2.
Vous ne travaillez pas ? De quoi vivez-vous ?
Je suis resté 13 ans à la direction d'une société d'investissement, à un moment où les marchés financiers étaient florissants. Peut-être que j'y retournerai un jour, qui sait, mais en tout cas, j'ai suffisamment d'argent pour l'instant. Et ce qui m'intéresse, c'est la création. Depuis que je suis tout petit, je rêve d'écrire un livre.
Je n'arrivais pas à croire que c'était moi qui prononçais ces paroles, mais tel était le scénario programmé, et je devais tenir mon rôle. Au tout début des années 70, je bossais chez un ancien champion de Formule 1 devenu obèse, qui s'était reconverti dans le commerce en gros de la pièce détachée d'automobile. J'imprimais ses catalogues en horaire décalé. Et le soir, quelques copains passaient me prendre pour une virée qui nous lavait les neurones. Ensuite, j'échouais au foyer des jeunes travailleurs, où j'avais trouvé une piaule. À l'époque, le bâtiment possédait son mur des bonnes mœurs, un obstacle interne et invisible. Après le hall commun, les filles empruntaient l'escalier de droite, les garçons l'escalier de gauche. Le règlement interdisait l'interconnexion. Et Paco, le gardien de nuit, essayait tant bien que mal de surveiller l'aiguillage.
L'homme se tient debout parce que, parmi tous les animaux, l'homme est fait de matière très légère et aérienne. Parce qu'il porte une plus grande chaleur naturelle, qui a tendance à s'élever vers les étages supérieurs. Parce qu'il partage sa forme parfaite avec les anges et les intelligences qui gouvernent le monde. Et surtout, parce qu'il est fait pour comprendre. Et cela grâce à ses sens, particulièrement de la vue. Chez l'homme, la vue, le cerveau et donc la tête doivent se trouver là où aboutissent les sensations. L'on voit mieux d'en haut. C'est pourquoi les yeux occupent une position élevée, comme les gardiens d'une ville postés sur une tour. Voilà les quatre raisons pour lesquelles l'homme se tient debout et s'appelle Pianta Reversa, ou Petit Monde. Parce que, comme le monde et l'univers, il a un dessus et un dessous. Mondino di Liuzzi, Anatomia, Bologne, 1316.